Resto Geek.
Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux.
Va voir ici, c'est un peu la colo.
Où est-ce que vous allez?
L'appel de la distraction.
Non, surtout ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer.
Vous êtes magnifique.
Ah, le bâtard.
Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries.
Tardis, pour faire court.
Et bonjour à tous et bonne année 2021 à tout le monde. Les meilleurs vœux, surtout la meilleure santé hein, dans ce contexte sanitaire un peu particulier. Et dans ce contexte particulier, j'espère que vous regardez encore et toujours des séries et qu'on est toujours là pour vous en faire découvrir ou parler de choses que vous avez déjà vues. Je suis Tipo, je serai votre animateur principal pour cette émission et je suis toujours accompagné pour cette année 2021 de mon cher petit Stalas.
Oui, bonsoir à tous et bonne année à tous.
Merci Stalas, ça fait plaisir d'avoir autant d'énergie pour cette première émission de l'année. Et je suis aussi avec notre chargé de communication, notre chargé de dessin, de design et tout, Nighties.
Salut, bonne année.
Merci. Ça fait plaisir, vous avez passé de bonnes vacances de Noël? De bonnes fêtes?
Ouais,
ça a été, ouais.
Très bien.
Vous avez été gâté par le Père Noël?
Toujours. Toujours. Je suis une enfant sage.
Oui. Ok, et ben on va passer à la suite là-dessus, hein, parce que... Voilà. Alors, si en 2021, vous êtes dit, tiens, je vais aller écouter Tarte à la rhubarbe devant d'incroyable série, je ne sais pas ce que c'est, et bah, je vais vous l'expliquer. C'est une émission dans laquelle nous allons parler de séries audio, de web-séries, de séries Netflix, et de séries animées, et d'une série rétro. On parle de tout ça pendant une demi-heure, 40 minutes, on essaie de pas faire plus. On vous donne notre avis, on essaie de donner aussi des avis objectifs sur la qualité de l'animation, des jeux d'acteurs, etc. Et on décortique tout ça, on vous donne notre avis, on vous conseille ou non d'aller regarder. Après, même si on vous conseille pas ou si on vous conseille, vous n'êtes pas obligé de regarder ou non. Hein. À vous de faire vos propres choix avec ce qu'on a dit. Et ça se trouve, on a dit des choses qui vous donnent pas envie, alors que ça se trouve, vous allez aimer. On essaie quand même de pas le faire. Et de vous donner envie d'aller regarder toutes ces séries ou les écouter. Eh bien... voilà, après ce petit résumé bien complet, je pense qu'on peut passer au programme de cette émission 2021. On commencera avec Home for Christmas, une série Netflix si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça.
Ensuite, on sera sur Artist. Moi, et l'anglais, ça fait toujours deux en 2021. Mais ne vous inquiétez pas, Nighties vous en dira plus. On passera sur une série audio rétro, on en parlera tout à l'heure. Et après, encore une série audio, ce sera Nébuleuse de Silver Cherry. Et on finira sur un animé qui ne sera cette fois-ci pas présenté par Stalas, mais par moi-même, Tipo, Les Mystérieuses Cités d'Or, saison 4. Voilà, un bon programme. Moi, j'ai vraiment hâte d'être dans cette émission. Et surtout que Nighties nous parle tout de suite de Home for Christmas, qui est une série... je ne sais pas.
Je vais prendre le relais, ça sera plus simple.
Ouais...
Du coup, Home for Christmas, c'est une série sur Netflix qui vient de sortir sa saison 2 pendant les vacances de Noël, juste au début des vacances de Noël. Du coup, composée de deux saisons, la deuxième qui vient de sortir, la première qui était sortie au Noël précédent, et qui nous parle de Johanne. Alors oui, c'est une série norvégienne, hein, donc les prénoms et tout, hein, ça va être compliqué, mais on va rester sur le personnage principal, Johanne. Qui est célibataire et qui annonce à un dîner de famille le 1er décembre qu'elle a un copain, sauf qu'elle en a pas.
Tintintin.
Et qu'il lui reste 24 jours pour en trouver un parce qu'ils veulent le voir à Noël. Ça, c'est le speech de la saison 1.
Ouais.
Saison 1 qui nous arrête au jour de Noël quand elle ouvre la porte pour accueillir son copain. Comment vous dire que quand j'ai su qu'il y avait qu'une saison, j'ai fait « Non, je veux savoir qui c'est !» Et ils m'ont entendu, une saison 2 est sortie, pour Noël. Oh là là, que de joie. Où on la retrouve pile à ce moment-là, quand elle ouvre la porte. Et au Noël suivant. Mais du coup, je vous dis rien de plus sur l'histoire en elle-même. Et peut-être écouter la bande-annonce pour vous donner envie, voir l'ambiance.
Ma mère m'a placée en bout de table, entre les jumeaux de mon frère. Depuis, j'élabore une stratégie et bientôt, je dirai une phrase qui aura un gros impact sur moi et sur quelques autres personnes. Écoutez, j'ai rencontré quelqu'un.
Sérieux ?
Il faut que tu nous le présentes bientôt.
Amène-les à Noël.
C'est donc comme ça que je me suis mise dans la merde.
Tu t'es inventé un mec, sérieux?
Ouais.
Alors il faut que tu te trouves un mec.
Quoi, en 24 jours?
Ouais, je te donnerai un coup de main. Tu vas le trouver les doigts dans le nez. T'as l'appli Love Match?
Non.
On va pimenter ta vie amoureuse. Regardez, souris.
Alors ça, pour une coïncidence, Johannes, Johanna...
Il est écrit ici que t'as 29 ans.
Tu me rappelles ma maman.
Et du coup, vous avez vu l'ambiance, elle a 24 jours pour trouver un copain, il va y avoir plein de péripéties, et je vous assure que c'est très très drôle pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, foncez, pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait une saison 2, foncez, elle est tout aussi bien que la première saison.
Alors pour ceux qui aimeraient m'offrir un calendrier de l'Avent l'année prochaine, ne m'offrez pas ça. Voilà,
quoi, 24 jours pour trouver une copine ou un copain?
Oh, les deux. Ni l'un ni l'autre.
Ouais. Et donc du coup, c'est une série originale. C'est une des premières séries norvégiennes que je vois. Et...
Si, il y a Ikea, monte ton kit. Ah non, c'est celui-là.
La première série que je vois où tout est bon dedans, que ce soit les acteurs qui jouent. On est vraiment bien, on s'attache à eux facilement, on veut savoir ce qui va leur arriver. La musique, tout le temps dans le bon thème, ou dans qui va vraiment très bien avec ce qu'il faut. Et de l'humour, beaucoup d'humour.
Je crois que c'est le principe d'un autre côté. Hein.
C'est le principe, mais j'ai eu peur de tomber sur un truc un peu trop romantique ou autre. Le trailer m'a quand même donné envie parce qu'il y a pas mal d'humour, et ça reste dans le même ton toute la saison. Et toutes les deux saisons, du coup. Donc une très bonne série que je peux que vous conseiller de regarder en cette période, vu que Noël est encore un peu présent. Et puis peut-être qu'il y aura une saison 3 à Noël prochain.
Et combien d'épisodes?
12 au total, 6 par saison.
Ok.
C'est assez rapide du coup à regarder en plus.
Ça m'a l'air pas mal tout ça. Une petite note à la série, puisque on vous le rappelle, on met une petite note.
Moi je mets une note de 10 sur 10.
Bon, une note de 10 sur 10, voilà, à quel point on aime ou pas, ça c'est très personnel.
Ouais, mais j'ai adoré, j'avais peur d'être déçu de la saison 2 et j'ai encore plus adoré. Donc.
Et bah super. Et en plus de la note, on vous pose une petite question à laquelle vous pouvez répondre en commentaire, ici ou dans la news sur le site, comme vous voulez.
Et vous pouvez répondre,
sur les réseaux.
Et vous aurez la réponse bientôt sur le site.
Oui, il y a les titres sur chaque émission, vous pouvez cliquer dessus, il y a toutes les questions et les réponses. Et du coup, une question?
Oui, et du coup, il y a une autre série norvégienne qui est sortie sur Netflix en 2020. Et j'aimerais bien si vous me disiez laquelle c'est.
C'est pas Into the Night, Into the Night c'était belge.
Non, c'était belge.
Ouais. Ok, et ben bah, merci Nighties.
Mais de rien.
Et bon, on va passer à quelqu'un de totalement différent, puisque c'est encore à toi, Nighties.
Oui.
On a décidé de faire deux fois Nighties, parce que ça s'enchaînait un peu mieux dans les séries, vous allez voir. Et du coup, tu vas nous parler de...
Artiste,
oui, voilà.
Artiste. Et pour commencer, écoutez un petit extrait de l'épisode 1.
J'ai un amour pour la poussière, dans le sens de quelque chose qui a vécu.
J'ai passé la moitié de ma vie avec mon grand-père et ma grand-mère, dans un immense hangar. Avec une quantité de merde.
Pleine de poussière, d'objets, de machines à écrire, de tôles.
De vinyle.
Tout le monde voit que j'aime les choses anciennes. Mais personne ne sait pourquoi.
Du coup, Artist, une web-série qui vient de sortir en tout début d'année 2021. Son tout premier épisode qui s'appelle Origine. Et qui est une adaptation d'un livre qui comporte 391 témoignages.
Oh, ok.
Livre de Eileen O'Hagan, si je me prononce bien son nom. En gros, la web-série, on suit une petite fille pendant 3 minutes, qui déambule un peu en...
Ça, c'est interdit par la loi. Hein.
Non, qui est dans une vieille maison, les images sont en noir et blanc... Et on va la suivre déambuler dans cette maison jusqu'à ouvrir un coffre et trouver une machine à écrire. Okay. Ça, c'est le visuel des 3 minutes. Et derrière, on va entendre, comme vous avez pu entendre en extrait, plein de petits extraits des témoignages qui sont dans le livre et qui vont coller à l'histoire que vous avez en visuel.
Wow.
Des témoignages sur la vie des gens, des témoignages sur des artistes, plein d'extraits un peu différents mais qui collent touche ensemble et qui vont avec le visuel. Je peux rien vous dire de plus sur ce qu'on entend parce qu'il faut entendre pour vraiment se mettre dedans.
Ouais, entendre les voix, j'imagine.
Entendre les voix et voilà.
Les voir, je veux dire.
Et voir le visuel. Mais je peux vous dire qu'il y a une ambiance très prenante entre le visuel, les voix et le son. La vidéo, du coup, est intrigante parce qu'on se demande, un peu pourquoi c'est là. Et les textes peuvent être très émouvants par moments.
En 2039, t'as tout ça à dire ?
Ouais, en 2039, il y a tout ça à dire.
Et ça a l'air vachement bien.
Le premier épisode, je l'ai écouté deux fois pour être sûr vraiment que... Je sais pas, il y a un truc. Ça m'a... C'était bizarre. Et en même temps, j'ai envie de savoir la suite. Et c'était superbement réalisé.
Bon, si Stardust arrive en retard, on saura pourquoi. C'est parce que je me suis trop... j'ai trop été regarder cette série. Cet épisode 1, pardon.
Cet épisode 1, mais j'ai hâte d'avoir les suivants, du coup.
Ok. Une note ?
8 sur 10. Parce que, du coup, je suis intriguée, je vais avoir la suite, et je peux pas mettre plus tant que j'ai pas la suite.
Avant une question, Stella, c'est un petit mot dessus ?
Ouais, ça, effectivement, ça a l'air sympa. J'espère juste qu'ils vont pas faire 361 épisodes.
391.
Pardon, 391 épisodes.
Je pense qu'ils ont déjà mis beaucoup de témoignages dans le premier épisode. Donc,
Oui, mais après, ils peuvent les recouper.
Ouais.
À voir.
Ouais. Du coup, la petite question.
La petite question. Du coup, c'est adapté d'un livre. Et j'aimerais que vous me trouviez pourquoi la couverture de ce livre est à moitié déchirée.
Parce que les témoignages sont tous à moitié écrits.
C'est pas ça, mais il y a de l'idée.
Ok, et merci Nighties. On va passer à une autre série, on va passer un peu plus dans le fantastique, avec la série rétro de Silver Cherry, la même auteur que pour les Nébuleuses, et la série s'appelle Les Magiciens de Neosia. Alors c'est une série assez fantastique totalement, ça se passe dans le monde de Neosia qui a été créé pour l'occasion, qui est un monde qui sort de la tête de Silver Cherry. Et donc, un petit synopsis qui va vous permettre de rentrer dans le monde des magiciens de Neosia. On se retrouve sur le monde d'Eretis. Les magiciens vivent paisiblement, loin de la vieille menace humaine. Les cités magiciennes du continent s'allient. Aucune querelle ne présage l'arrivée de temps troublés. Et pourtant, ce n'est pas sur ce continent qu'une rancœur grandit, s'affine et rallie les créatures sombres contre une espèce inconsciente de la menace. Donc ça, c'est le synopsis de la saison 1. Et en gros, on va retrouver Milesi qui est une magicienne qui va être appelée pour protéger un mage qui est en fait son père. Normalement, on n'appelle pas quelqu'un de la famille pour protéger quelqu'un. Son père étant le grand mage de la cité de Neosia. Il va se passer plein de péripéties, pas mal de batailles, de coups fourrés, des trucs comme ça. Je vous laisse vraiment aller l'écouter parce que c'est vraiment pas mal. Et après, on arrive sur la saison 2. Et au niveau de la saison 2, en fait, on retrouve encore Milesi et qui... Bon, il y a un petit premier épisode et vers le deuxième épisode, elle est capturée pour certaines choses avec quelqu'un. Et d'ailleurs, je vous ai choisi un extrait à ce moment-là parce que c'est un petit extrait qui est sympathique, mais si je le prenais plus loin, je risquais de vous spoiler. Donc, écoutez ce premier extrait pour au moins entendre la qualité audio, la qualité des ambiances, même s'il n'y en a pas beaucoup dans cet extrait, mais la qualité audio en tout cas.
Oh putain.
Milly, t'es réveillée ?
Oui. On est où ?
Dans une carriole. Mais où elle se dirige, je n'en sais rien.
J'arrive pas à bouger.
Normal, on est attachés.
Oh, bordel. Et l'ordu ? Où est l'ordu ?
Devant moi.
Je le vois pas. Pourquoi il dit rien ?
Il est encore inconscient.
C'est quoi ce bordel ? J'arrive pas à cramer mes liens.
Tu ne sens rien autour de ton cou ?
Autour de... Oh, un collier anti-magie ?
C'est ça.
On en a tous les trois, j'imagine.
En effet. Maintenant que tu es réveillé, tu peux baisser tes mains ?
Quoi ?
Elles sont trop hautes, j'arrive pas à atteindre tes liens.
Ah d'accord. Alors attends.
Alors on va s'arrêter là. Petite ambiance tranquille. Je vous ai pas mis les grosses ambiances parce que c'est ce qui arrive un peu plus tard, donc je voulais pas trop vous spoiler. Mais voilà, déjà une bonne première petite ambiance. Alors à savoir quand même, la saison 1, au début, et je pense que c'était une de ses premières séries et moins bien en termes qualité, mais ça s'arrange largement dans la saison 2 et en fin de saison 1 même d'ailleurs, donc pas de réticence à avoir au niveau de cette qualité là franchement, foncez écouter cette série qui a... franchement l'histoire est vraiment très 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 prenante, et des magiciens, des démons, des semi-démons, magiciens, etc. Elle est vraiment plutôt cool. Moi j'avais écouté cette série il y a un moment, et puis en fait il y a Stalast qui est venu, qui a dit qu'elle allait parler de Nébuleuse de Silver Cherry, donc j'étais retourné voir cette série, et j'avais pas vu que la saison 2 était terminée, et donc j'ai été l'écouter. Et en plus ce qui est sympa, c'est qu'on peut choisir la fin de sa saison 2. Il y a 2, 3, 4 épisodes comme ça, 2, 3 petits extraits. Enfin, il y en a une partie qui est un peu plus longue, mais en fait qui te permet de choisir la fin que tu veux. Ou tu peux tous les écouter si tu as envie de tout écouter. C'est ce que j'ai fait. Mais tu peux choisir ta fin, et je trouvais ça sympa. Sans que ce soit forcément une série dont vous êtes le héros. Tu peux juste choisir ta fin en fonction de ce que tu veux. Donc voilà, plutôt cool. Il y a l'air d'avoir d'autres projets sur Neosia en écriture, mais pour le moment c'est que en écriture. Voilà, donc 5h50. Cette série dure 5h50, le site est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai pas dit, terme de jeu d'acteur, c'est très bon. J'ai oublié un truc très important que je n'ai pas dit au début, c'est que cette série est réservée à un public majeur, on va dire, ou à au moins 16 ans. Il y a quelques scènes sensibles de combat, de trucs un peu chelous ou de sexe. Enfin, il n'y a pas directement le sexe, mais sans les parler directement et tout. Enfin, bref. Donc, n'y allez pas si vous avez 10 ans. Mais évidemment, si
disons que c'est beaucoup plus intéressant.
Disons que je pense que si vous avez 10 ans, vous n'êtes pas en train d'écouter ça. Même si je vous dis de ne pas l'écouter, vous irez quand même l'écouter, j'imagine. Mais n'y allez pas. Vous ne le faites pas écouter à un public trop jeune, en tout cas. N'allez pas l'écouter avec vos petits cousins qui aiment bien écouter Nal Buck. Ça ne fera pas trop. Je crois que c'est tout pour les magiciens de Neosia. Je sais pas si vous avez des choses à dire dessus.
Non, à part que l'univers me tente pas mal.
Ouais, faut vraiment que t'ailles l'écouter, je pense que ça va te plaire.
Ok.
Et Stalas?
Non, pareil.
Là, je vous conseille vraiment de l'écouter, c'est une série audio que j'avais un peu oubliée, j'avoue, mais ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir d'y penser et de la redécouvrir, de la réécouter en entier et de découvrir la fin aussi. Donc plutôt content. De toute façon, on travaille de Silver Cherry plus. Donc voilà. Alors pour moi, du coup, ce sera un 7,5 sur 10 parce qu'il y a la qualité de la saison 1 qui est un peu plus compliquée et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même, faut rien oublier. Mais bon, c'est aussi le cas dans Reflet d'Acide. Hein, donc voilà, mais allez, je monte à 8. Je monte à 8 parce que quand même j'aime beaucoup cette série.
continue, il va monter à 9.
Non, 8 c'est bien, mais c'est vraiment pas, parce que la saison 1 a un peu de mal au niveau de la qualité, mais sinon pour la saison 2, ça sera facilement à 9. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Vous retrouvez toutes les infos sur silvercherry.fr. Et ma petite question sur les magiciens de Neosia va être une question que vous pouvez retrouver sur le site. Je vous laisserai essayer de trouver un peu où et comment vous pouvez la retrouver. Mais la question est, pourquoi la bannière de Neosia est le dragon blanc, dieu dragon? J'ai beaucoup aimé la réponse à cette question. Elle me fait rire, donc je vous laisse aller essayer de trouver ça en allant écouter la série et en regardant le site. Voilà. Et ben voilà. J'ai fait ma partie sur la série rétro. Et donc, comme je le disais un petit peu en transition, c'est Stalas qui va vous parler de la prochaine série audio qui s'appelle Nébuleuse et qui est aussi de Silver Cherry.
Tout à fait. Alors cette fois-ci, ben, toujours comme le dit Typo, Silver Cherry, donc dans sa dernière production qui s'appelle Nébuleuse, qu'elle a fait en partenariat du coup avec Gladal Guam. J'espère que je prononce bien.
Je vais les dire si tu veux.
Tu prononceras sans doute mieux que moi.
Gladal Guam, Silver Cherry, bah forcément c'est elle. Artekion, Mathieu Catin et Apollo.
Merci.
Bonjour voilà, à ceux qui m'écoutent et qui me reconnaissent.
Donc on va dire que parmi ceux-là, il y en a 3 qui font vraiment partie de... qui sont du début à la fin, et puis les autres qui font des apparitions importantes. Donc, série audio en 4 épisodes seulement diffusée... Alors j'ai remarqué ce matin que l'épisode 4 était déjà diffusé sur le site, mais je ne sais, j'ai pas la date de sortie, donc je vais dire entre début décembre et fin décembre, peut-être. Qu'il n'y était pas quand j'avais regardé il y a 2 jours. Donc, d'un point de vue histoire, c'est en fait l'histoire commence quand Mike et Murak, membres de la Fédération, une société qui protège l'univers, enfin d'après ce que j'ai compris, récupèrent une jeune enfant qui s'est enfuie d'un vaisseau rebelle qui s'appelle Lena,
et qui leur annonce que les rebelles essaient de construire un canon possiblement surpuissant, puisqu'il serait capable de détruire des planètes. Donc la mission que va leur donner leur chef, c'est d'un, enquêter sur Lena pour savoir si c'est pas une espionne et qu'elle donne pas des fausses informations, et de deux, vérifier les informations de Lena et, s'ils le peuvent, empêcher les rebelles de construire le canon en récupérant les pièces. Avant de continuer, je vous propose le petit extrait. Ça vous donne une idée.
Ah merde!
Mike, oui, ils nous ont touchés.
Ah, c'est toi, Mirac. Bon, ça va, c'est juste le sas, la porte n'a rien.
N'empêche, qu'est-ce que ces rebelles viennent faire par ici? Habituellement, ils n'osent pas approcher le secteur par peur d'être écrasés par la Fédération.
Oui, bah là, ils nous en mettent plein la gueule. Ils foutent quoi, à la base? Ils vont nous envoyer du renfort ou on peut se gratter?
Ce vaisseau rebelle est tout seul. Ils doivent considérer qu'on peut s'en charger.
Ils sont mignons.
Donc voilà. Donc vous pouvez... Là, vous avez pu entendre Mike et Murak, donc joués par Glado et Guam. L'un est un homme, l'autre est un homme pierre. D'ailleurs, du coup, je viens rapidement sur cet homme pierre. Ils vont faire des blagues, hein, je vous préviens tout de suite, sur le fait qu'il soit en pierre. Par exemple, il aura tendance à dire qu'il a la peau dure. C'est une blague de merde, mais ça passe. Sur le contexte, ça passe, je vous jure, ça passe. Donc, c'est une série assez courte, hein, environ 10 minutes par épisode, et en tout, pour les 4 épisodes, vous pouvez compter 45 minutes. D'un point de vue technique, c'est très très bien monté. On sent que c'est pas du tout sa première série audio. On sent aussi que les partenaires ne sont pas leur premier j'ai envie de dire doublage, mais c'est pas le bon terme.
À leur premier rôle, en fait.
Acting.
Ah ouais. Juste pour ajouter, parce que ceux qui ne connaissent pas vraiment, Cladol, Quam, Artecum, Atokatin et Apollo, c'est des personnes qui ont fait énormément de voix. Et quand vous vous baladez sur Forum du Netophonics, c'est des gens assez connus dedans. Donc un très bon casting. Alors,
moi, par exemple, je ne les connaissais pas et je les connais là grâce à cette série. Effectivement, on sent que ce n'est pas la moitié de rien du tout. Voilà, donc surtout, je préfère Guam qui joue Murak. C'est, parce que du coup, il a dû avoir une voix assez rocailleuse et pourtant, c'est plus grave et assez rocailleuse. Et pourtant, je trouve que c'est lui qui fait le... C'est la voix dans laquelle on entend le plus d'émotions. Je trouve, déjà, je fais un grand bravo pour ça. C'est pas très simple à faire, surtout que là c'est que de l'eau, enfin c'est que des dialogues. Quand on est humain, c'est peut-être un peu plus dur à jouer, c'est plus dur de se mettre dans la situation, en fait, je trouve. Voilà, et donc ça, c'est les gros points forts que je mettrais. Après, pour les petits défauts, je dirais série trop courte dans le sens où en fait j'aurais préférer que la série s'étale sur un ou deux épisodes de plus, histoire de faire de mettre un peu plus d'action, enfin, je sais pas, un peu plus de scénario, voilà, un peu plus de péripéties, histoire d'un peu mieux comprendre, parce que là ça va, on enchaîne des épisodes assez facilement, mais du coup à la fin on reste sur notre fin en disant ah, j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus sur 2-3 trucs. Voilà, je vous laisse écouter pour voir si jamais vous êtes d'accord avec moi sur ça. Mais c'est tout. Et puis, petit deuxième point, c'est sur les scènes d'action. Bon, elles sont pas très... Enfin, les vraies scènes d'action pures sont pas très nombreuses. Et j'aurais bien aimé un peu plus de bruitage, ou alors passer en mode narration avec un narrateur, du coup, qui explique un petit peu les dommages sur les vaisseaux, les actions que font les deux camps. Voilà, mais c'est... Mais je pense que ça aurait été trop... ça sortirait peut-être un peu trop de l'immersion. Pour la note, du coup, je vais l'expliquer tout de suite, je la mets de 8 sur 10. Donc 8 sur 10, bon, c'est bien sûr pour l'excellent travail, pour les excellentes voix. Et les deux points que j'enlève, c'est justement parce que je trouve la série scénaristiquement trop courte et qu'on n'arrive pas à trop... j'ai plus le mot, alors je viens de le dire.
Ouais, j'aurais des réponses à ça, d'ailleurs. J'ai plusieurs réponses. Pour toi.
Peut-être. Mais du coup, on n'arrive pas vraiment à être très impliqué dans les scènes d'action, alors que par contre, dans les scènes dialogue, on est complètement pris dedans.
Ah, c'est plutôt cool comme retour quand même. Du coup, pour tu posais la question tout à l'heure, le dernier épisode est sorti le 26 décembre 2020.
Eh ben voilà.
Et Nébuleuse, en fait, c'était surtout un truc qu'elle a fait comme une comme démo technique, tu sais, pour faire son portfolio. Et c'est pour ça qu'elle a pas poussé l'histoire bien loin. C'est ce qu'elle explique dans une des news qu'elle a mis sur son site silverchérie.fr. Mais elle est contente des retours quand même. Donc, ce qui explique pourquoi c'est court. Après, t'es frustré, très frustré, c'est normal. Mais ce qui explique en tout cas.
Ah mais moi j'aime bien en savoir plus sur l'univers, mais c'est comme je râle sur Reflet d'Acide, parce que finalement si on veut vraiment bien connaître Reflet d'Acide, faut acheter les BD, et les BD elles sont plus commercialisées.
Triste.
Du coup on a pas beaucoup, enfin j'aime bien me pencher dans les histoires, que ce soit dans le jeu vidéo, ce que j'écoute ou série, mais bon, ça c'est... Il y en a peu des comme moi.
C'est vrai, mais il en faut. C'est plutôt sympa aussi. Bah merci Stalas, une petite question sur Nébuleuse ou sur Silver Cherry, je ne sais pas.
Ouais, alors ça sera dans la série Nébuleuse du coup. Alors moi le scénar il m'a fait quand même, enfin à force de l'écouter parce que j'ai écouté une traite, m'a fait très penser à un autre scénar bien connu des geeks et de la culture pop. Je vous demande de retrouver lequel.
Eh bien, merci Stalas pour cette série. On va passer à la dernière série de cette émission. C'est la série animée. Pour une fois, je l'ai shippé Stalas. C'est pas toi qui vas en parler, mais c'est moi.
Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor. Cherche les cités d'or.
Voilà donc les Mystérieux Cités saison 4 qui se déroule, vous l'avez bien compris, en Afrique, et ça là, pas de blague bizarre. Enfin, pas de blague où on sait que c'est, tu vas dire de la merde. Donc,
t'es au Pérou.
Les Mystérieux Cités d'Or qui sont sortis, quelqu'un a la date ici?
1982.
C'est ça, 1982, je revérifie, mais il me semble que c'est bien ça. Donc en 1982, la première saison qui est sortie en collaboration, faite en collaboration avec, en France et, avec la France pardon, et le Japon. En 82, puis la série s'est arrêtée malgré que le dernier épisode, alors ceux qui n'ont pas vu la saison 1, je suis désolé mais j'ai un peu spoilé parce que ça fait 1982, donc vous avez le temps de rattraper le puits, hein, on va pas se mentir.
Ouais, faut se mettre un peu à la page.
À la toute fin, après avoir découvert la première cité d'or, ils se disent qu'il y a 6 cités encore manquantes. Et Esteban, Tao et Ziad donnent rendez-vous à Mendoza, Sancho et Pedro dans le petit bar à Barcelone où ils se sont recroisés pour la première fois. Donc voilà, ça c'est la fin de la saison 1. Et donc on est en droit d'attendre une saison 2 qui n'est jamais arrivée, sauf en 2012. Et c'est arrivé via TF1. D'ailleurs, la saison 4, je crois, a été reprise par France 4, mais en tout cas, c'est arrivé par TF1 avec une saison tous les 4 ans. Donc la saison 2 en 2012, la saison 3 en 2016, la saison 4 fin 2020, début 2021, là, qui est en train de sortir actuellement, qui est disponible, je crois, sur France TV en grosse partie, et sera bientôt diffusée sur France 4. Et en attendant, vous pouvez revoir les saisons 2 et saison 3 qui sont diffusées sur France 4. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Mystères Cités d'Or, même si on en a déjà parlé dans un trop chaud, de quoi ça parle? Ce sont 3 enfants. C'est surtout un enfant, Esteban, qui part en voyage avec Mendoza, qui est quelqu'un qui l'a sauvé et qui lui dit que son père est peut-être sur le nouveau continent, l'Amérique. Et ils partent ensemble, ils partent aussi avec Zia. Et Mendoza est accompagné de 2 marins qui s'appellent Sancho Pedro, qui sont surtout là pour amuser la galerie. Même si des fois ils font quelques trucs, mais c'est surtout pour amuser la galerie.
Par hasard, surtout.
Par hasard, surtout, voilà. Par hasard, ils foutent la merde, généralement d'ailleurs. Et ils arrivent sur le nouveau continent, sur une petite île où ils croisent Tao, et de ça en ça, cela fait une petite équipe, Tao, les enfants et les adultes qui les suivent tout le temps, parce que, à savoir que Esteban et Zia sont les élus, ils sont voués à découvrir et ouvrir les cités d'or, et Tao, bah, c'est pas du tout un élu, mais on pourrait quand même penser que c'est quand même, c'est le dernier descendant du peuple Mu qui a créé les cités d'or, et on pourrait penser quand même que c'est un peu un élu qui, enfin c'est en tout cas la personne qui est le mieux placée pour accompagner Esteban et Zia. Donc je le considère un peu comme un élu, puisque c'est le seul qui peut décrypter les signes Mu et qui peut leur permettre d'avancer, etc. Sans lui, ils n'auraient pas trouvé la première cité d'or, clairement. Donc vraiment, ces trois enfants-là et les adultes qui les suivent et qui les protègent aussi, et qui au départ, pour Mendoza, c'est un truc assez intéressant dans la saison 1, c'est que Mendoza était intéressé par l'or, bon, il est toujours intéressé par l'or, mais il s'est attaché aux enfants. Et du coup, il y a vraiment une amitié forte, ou une notion de parent-enfant, surtout entre Mendoza et Esteban, qui est assez fort. Donc ça, c'est toute la saison 1, et on retrouve la saison 2, qui, comme promis, il se retrouve à Barcelone avec un nouveau méchant, qui s'appelle Xares, qui est un méchant, en fait, qui veut les cités d'or, et qui sait que les enfants en ont un, et il veut absolument les cités d'or. Et il va se passer plein de trucs, je ne vais pas tout vous spoiler, puisqu'on en sait pas mal de choses sur Xares, notamment à la fin de la saison 2. Et comme on va parler de la saison 4, bon, je vais pas vous parler de la saison 4 parce qu'on l'a pas encore vue, mais je peux vous parler de la saison 2 et la saison 3. Mais la saison 4 est dans la continuité. Hein. Donc, du coup, ça c'est pour l'histoire. Rapidement sur l'histoire de la saison 2 et la moitié de la saison 3. La saison 2, en tout cas, l'histoire est vraiment bien écrite. En tout cas, le gros fil rouge, il y a vraiment un suspense jusqu'à la fin. Pour vous dire, moi au milieu, enfin, pendant la saison, j'étais en mode ah, mais attends, je suis sûr que lui c'est lui. Ah mais non, c'est pas possible parce qu'il y a ça. Ah mais ah, et puis à la fin, j'étais encore surpris, il fait ah purée, ça peut être ça. Enfin voilà. Vraiment la saison 2 a été bien construite au niveau du suspense, je trouve. La saison 3, à voir ce qu'elle réserve, j'ai pas fini de la regarder, mais je pense que ce sera pareil, la saison 4 aussi. Je pense que niveau histoire, ils me déçoivent pas pour le moment. Par contre, là où ça peut faire tiquer, et là on va parler tout de suite de l'animation. Alors l'animation est forcément très différente de l'époque parce que bah on n'est plus du tout dans les époques. Et surtout, il y a eu un budget plus restreint. Actuellement, on sait, enfin en tout cas, moi, c'est les informations que j'en ai, faire de la 3D, c'est beaucoup moins cher que de l'animation 2D. Du coup, il a été choisi de faire de l'animation 3D à plani sur des décors en 2D. Donc tout ce qui est personnages, le condor, etc., c'est en 3D. Et le reste est à plani, et le reste en 2D. Alors c'est vrai que ça fait un design assez bizarre. Et en fait, quand tu t'y habitues et que tu vois l'animation, ils ont quand même réussi à reprendre les personnages qui étaient totalement en 2D, en 3D. Et des fois, c'est pas facile quand même pour certains personnages. Et il y a peut-être des fois un peu 2-3 têtes cheloues, mais ça aurait pu être tellement plus moche avec un budget 3D plus réduit. Je pense qu'ils ont trouvé la 3D qui sauvait, la 3D pour pas cher, qui sauvait un peu le visuel. Je pense que ça aurait pu être pire que ça, en termes d'animation. Vous qui en avez vu un petit peu, vous avez un avis sur l'animation ou que je parle d'autre chose?
C'est pas qu'elle est moche, c'est que ça fait un énorme choc quand tu passes de la saison 1 des années 80 aux nouvelles saisons. Il y a certains personnages dans certaines positions qui ont des têtes vraiment bizarres. Je pense à Tao au début de la saison 2. Il y a un moment où tu vois sa tête fait « C'est Tao, ça ?» Mais sinon, tu t'y habitues et l'histoire est bien, donc ça compense.
Stalas, toi qui as regardé un petit peu juste avant l'émission pour voir. Même avis.
Ouais, alors moi je vais juste revenir sur le fait que la première saison, c'est déjà de la 3D.
Oui, non, mais ça, on n'a pas...
mais ça, on refera une définition dans un...
C'est un autre débat, mais en tout cas, dans ce qu'on en parle, la 3D, 2D, dans le sens commun.
Mais là, c'est pour faire une différence, effectivement, donc je ne vais pas reprendre. Sinon, ouais, ça fait partie de ce que j'appellerais la 3D enfantin, entre guillemets. C'est une 3D qu'on rencontre beaucoup pour les enfants, je vais dire, jusqu'à 10 ans maximum, quoi. Après, après on repart sur de l'animé un peu... sur de l'animation un peu plus... comment pourrais-je dire ?
Un peu plus poussé.
Voilà, un peu plus poussé, un peu plus plus d'images par seconde, et avec un dessin plus mature.
Ouais, et d'ailleurs, très bonne transition, parce que j'avais oublié d'en parler, mais effectivement, quand TF1 l'a commandé, c'était pour passer dans TFU. Donc c'était clairement destiné aux enfants de moins de 10 ans. Hein.
Pas maintenant, à nous. Maintenant, c'est diffusé aussi en France, c'est diffusé sur OKO, non, OKO.
Ouais, sur France 4, ouais, c'est France 4 et c'est sur France TV et Oku.
Et... Oui, bah c'est ça, mais du coup, c'est réservé, enfin c'est réservé entre guillemets aux enfants.
Alors, moi je trouve moins justement. J'ai l'impression qu'en fait, tu vois, TF1, elle a commandé pour TFU pour des enfants de moins de 10 ans. Et pour moi, France 4 a pas un public que de jeunes enfants, un public de ados, jeunes adultes ou un truc comme ça. Et ah, pour moi, le public, je pense, a été plus âgé que ce que voulait TF1, et c'est peut-être pour ça que c'est France 4 qui a repris, que TF1 a peut-être lâché l'affaire. J'ai pas les infos, hein, je suppose. Hein.
Non, mais t'as peut-être raison, mais moi, à chaque fois qu'on parle de coups, quand... la dernière fois qu'on en parlait, c'est pour Martin Mystère, et Martin Mystère, ça reste pas à quelqu'un qui a plus de 10 ans, sauf si par nostalgie. Ou c'était sinon... c'est pas sorcier aussi.
Ouais, c'est toujours pas... Mais c'est pas disponible que sur Roku, hein. On peut les voir sur France TV directement.
Oui, c'est ça aussi, oui.
Donc, c'est pas que Roku, quoi. Et c'est diffusé aussi sur France 4. À 2h comme 16h, tu vois. Donc, bon, ok, c'est pas les horaires où nous on regarde des trucs, mais voilà. Enfin, quoi que t'en as le week-end aussi. Donc, voilà, ça c'était l'animation. Les voix des personnages, forcément, ont changé. Ils ont pas repris les mêmes voix. Je trouve ça un peu dommage, mais je pense que c'était peut-être compliqué. Ça m'a surtout fait tiquer sur un personnage qui revient en saison 3, un personnage bien connu, je vous spoil pas, mais si vous regardez, vous comprendrez de qui je parle. Je trouvais que la voix ne collait pas au personnage. Et le dernier truc la dernière chose dont je voulais parler, c'était les musiques, qui pour moi, je trouve, ont quand même beaucoup moins de vie que dans la saison 1. Alors c'est peut-être que c'est plus mon enfance et qu'elle me touche moins, mais de temps en temps, tu vois, je rentends des petits thèmes qu'il y avait dans la saison 1, donc ils ont repris des thèmes comme ça. Mais d'ailleurs, des fois, je trouve qu'il y a un petit peu d'inspiration de Hans Zimmer sur certains thèmes, mais léger, hein, mais juste des petites inspirations aussi, notamment sur des trucs où ça fait un peu pirate, je trouve. Je trouve qu'elles sont... Ah, peut-être à voir dans 10 ans, mais je trouve qu'elles sont moins prenantes et que j'aurais moins envie d'aller acheter un CD des musiques des Mystères de Sidor saison 2, 3, 4 que de saison 1. Bon, en sachant que toute la BO de la saison 1 a été perdue et qu'en fait c'est des gens qui l'ont refaite, mais ça c'est autre chose. Voilà, je crois que j'ai pas mal parlé sur les Mystérieuses Cités d'Or. Rien à rajouter dessus ?
Rien à rajouter.
Mis à part, du coup, pour revenir sur l'animation, que effectivement, l'animation, c'est pas ce que j'adore, mais c'est vrai qu'elle est... Elle fait le travail.
Ouais, ça aurait pu être pire. C'est surtout ça.
Clairement.
Et...
Ça aurait pu être Saint Seiya.
C'est ça. Et elle est vraiment compensée par l'histoire. Vraiment, si j'ai pas de bêtises, c'est à la même époque qu'est sorti Call Lyoko Evolution. Et je pense que je préfère Call Lyoko au Mystérieux Cité d'Or. Mais Call Lyoko Evolution, j'ai gerbé, j'ai vu le Mystérieux Cité d'Or, j'ai fait... Ah ouf, tout n'a pas été raté cette année. Donc voilà. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas vu, que vous avez au moins aimé les Cités d'Or saison 1 et que ça vous dit de vous reprendre les Cités d'Or saison 1, etc. D'ailleurs, toute la saison 1 est disponible gratuitement sur France TV. Je vous conseille vraiment de regarder ces saisons qui, pour le coup, valent le coup. Et au niveau des discussions, des fois, c'est un peu pour les enfants, parce que le script était un peu pour les enfants, mais le script général fait quand même assez adulte avec des vrais suspens, en fait. Donc c'est plutôt cool. C'est pas des trucs à la Scooby-Doo, quoi. Et j'aime bien Scooby-Doo, c'est pas pour le dénigrer, mais c'est pour faire une comparaison. Voilà, j'ai assez parlé, du coup, je vais se donner ma note, qui va être de 9 sur 10 pour les Mystérieuses Cités d'Or, un point moins parce que le choc de l'animation m'a... Et les petits trucs, parce que des fois on voit que c'est un peu. Pour les petits, on voit un peu les trucs venir, mais ça va. Donc 9 sur 10 pour les Mystérieuses Cités d'Or, parce que j'aime vraiment beaucoup cette série et que je veux m'empresser de finir la saison 3 pour regarder la saison 4 là. Et donc, ma petite question sur les Mystérieuses Cités d'Or. De quoi sont inspirées les Mystérieuses Cités d'Or ? Je parle de la série Mystérieuses Cités d'Or. C'est inspiré d'un livre, et je vous laisse aller chercher de qui et comment il s'appelle, en anglais ou en français, comme vous voulez. On a déjà parlé dans le Nitro Show 2, je crois, ou 1.
Nitro Show 1.
Le premier Nitro Show qu'on a fait. Donc je vous laisse aller soit réécouter les Nitro Show, ça nous ferait plaisir, soit chercher l'information sur Internet. Voilà, et ben une bonne émission. Je crois qu'on a parlé que de bonnes séries, comme d'habitude en fait. Pas rarement de mauvaises séries.
Comme le plus souvent.
Sauf une fois au chalet.
Sauf une fois au chalet.
Il a pas la référence. Ouais,
ceux qui ont pas la référence, je vous laisse aller chercher, mais un peu dégueu.
On laissera un petit peu chercher.
Je suis en panique, je sais pas de quoi on parle. Et bah là-dessus, on va vite se quitter pour que je puisse leur demander la réponse, parce que, voilà. Merci de nous avoir écoutés, je rappelle qu'aujourd'hui nous avons parlé de Home for Christmas, une série Netflix de Artist, une web-série, de la série audio Les Magiciens de Neosia, de Nébuleuse et des Mystérieuses Cités d'Or. Si vous avez des séries audio à nous conseiller ou dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il y a un petit formulaire sur le site au niveau de la page de Tartare à la Rhubarbe devant l'incroyable série. Et sinon, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles séries. Et dans quelques semaines pour normalement Burger Games, Burger Gameplay et peut-être une nouvelle émission si on arrive à finir à la préparer. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça dans la tête et à la prochaine.
Salut!
Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux.
Tu vas voir ici, c'est un peu la colo.
Où est-ce que vous allez?
L'appel de la distraction.
Non, surtout ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer.
Vous êtes magnifique.
Ah, le bâtard.
Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries.
Tardis, pour faire court.